Bien, merci beaucoup à Jean-Marc et à Jean-François. On va attaquer la dernière partie de cette journée et de ce marathon 40 ans, 40 romans, en se consacrant aux années 2010, donc un petit peu moins de livres dans cette session 2010, 8 livres seulement. Il reste encore quelques années pour cette décennie, donc on a laissé de la marge. On va commencer tout de suite avec Anne-Cole de Fifocard. Bonjour à vous et merci beaucoup d'être là. Celui-ci, par exemple, fonctionnera très bien.
Bon. On entend quelque chose ?
Je pense que oui.
Bon.
Éditrice, traductrice et en particulier de l'auteur dont vous allez nous parler, un écrivain russe, Vladimir Sorokine, que vous avez en effet publié dans la collection que vous dirigez aux éditions Verdier et que vous avez également traduit. Vous allez à la fois nous parler de ce livre-là, daté de 2010, je crois, si je ne me trompe pas pour la traduction,
Oui. Et
puis peut-être plus largement de l'œuvre de Vladimir Sorokine. Oui. Je vous donne tout de suite la parole.
Oui. Alors, Sorokine, c'est quelqu'un qui a maintenant une petite soixantaine, qui est ingénieur à la base, pas du tout un littéraire, pas du tout, et qui a connu dans les années 70-80 le milieu underground de Moscou. C'était un milieu de peintres, d'ailleurs lui-même est peintre aussi, un milieu de peintres, un milieu d'écrivains, de poètes, et qui avait un peu pour, comme maître, non pas à penser mais à écrire, Yuri Mamliev, dont vous avez peut-être lu le roman Chatouni. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le à plusieurs conditions. D'abord, ne pas être en déprime à ce moment-là, parce qu'alors là, c'est fichu pour vous. D'autre part, aimer la littérature grotesque, parce que c'est du grotesque pur sucre. Troisièmement, aimer tout ce qui peut être littérature d'horreur, comme on parle de films d'horreur. Mais c'est un écrivain qui a énormément marqué la génération, je dirais, des nouveaux écrivains des années 80, dont Sorokine. Alors, Sorokine a commencé très jeune à écrire. Dans l'Union soviétique, il écrivait sous le manteau, parce qu'il était hors de question qu'il soit publié. Et il a été publié assez vite en français. Dès la fin des années 70, il était publié. Alors ce roman qui est sorti donc chez Verdier en 2010, en réalité, il a été écrit dans les années 80, c'est-à-dire avant la chute, avant l'effondrement de l'Union soviétique. À partir du moment, et donc pas publié en russe, avant 91. Il a été publié beaucoup plus tard. Mais après 91, Sorokine est devenu l'un des plus connus parmi la génération actuelle d'écrivains russes, l'un des plus intéressants, à mon avis, l'un des plus grands. Avec Pelevin, par exemple. Ce sont deux écrivains très différents, mais qui sont vraiment des grands. Alors, ce roman de Sorokine s'intitule Roman. Le héros s'appelle Roman. Avec Roman, Sorokine, qui a pour caractéristique dans toute son œuvre de faire tout exploser, c'est-à-dire exploser tout ce qui est figé, tout ce qui bloque, tout ce qui empêche de vivre, de respirer, d'évoluer. Il a par exemple publié tout un cycle, La glace, qui a été traduit chez Olivier Cohen, à l'Olivier, où au fond c'était un petit peu la période glaciaire soviétique qu'il a connue lui étant très jeune, et qui, où là encore il faisait tout exploser sur le mode grotesque, sur un mode extrêmement violent. Dans Roman, il s'attaque à la grande littérature russe, c'est-à-dire aux classiques du 19e, ces classiques que on obligeait les étudiants soviétiques et les élèves soviétiques à étudier, mais à étudier d'une façon, je dirais, très idéologique, pas du tout littéraire, et on a comme ça, je dirais, bousillé un certain nombre de générations d'élèves et d'étudiants à qui on a fait croire que Tchekhov était un brave humaniste. Il n'y a pas plus méchant que Tchekhov, quand on y réfléchit bien. Que Tourguenieff, c'était pareil, c'était un intellectuel, là encore, très grand humaniste, ce qui est plus ou moins vrai. Pour Pouchkine, on en a fait un poète national. Bon, ça se discute. En tout cas, avec son roman et son personnage de roman, Sarokine crée un grand roman russe classique. Et c'est là qu'on voit qu'il est très très doué. Parce que bon, si vous connaissez bien la littérature russe classique, vous retrouvez du Tourguenieff, vous retrouvez du Tchekhov, vous retrouvez du Pouchkine, vous retrouvez du Tolstoï. Tout ça extrêmement bien fait. Et si vous connaissez pas tout ça, ça n'a aucune importance. Vous lisez un grand roman classique russe. Et d'ailleurs, ça a très très bien marché. Je pense que Colette Olive, qui est là de chez Verdier, peut le confirmer. Ça a bien marché en librairie. Et les rencontres de Sorokine avec les libraires, c'était toujours « Oh, mais enfin, on nous offre un vrai roman russe ». Bon, alors c'est un roman qui fait à peu près 600 pages. Et sur les 600 pages, effectivement, on en a 500, où quand on est un amateur de littérature russe du 19e, on se délecte absolument. C'est vraiment magnifique, de la grande littérature russe, au sens classique. Alors si je dis sur 500 pages, enfin 500 pages sur 600, c'est parce qu'il y a les 100 dernières pages. Et les 100 dernières pages, Sarokine passe à casser avec une violence absolument inouïe tout ce qu'il a mis 500 pages à construire. C'est-à-dire que le joli monde de la littérature russe classique du 19e, son roman lui est situé à peu près au début du 20e siècle ou à la toute fin du 19e, il casse tout ça et ça se termine, vous avez 100 pages absolument sanguinolentes, épouvantables, dont je vais vous lire un extrait, comme ça vous ne serez pas venu pour rien. Je ne vais pas vous lire le pire. Roman s'approcha de la couchette et frappa Paramon Karashov d'un coup de hache sur la tête. Paramon Karashov ne broncha pas. Roman frappa Paramon Karashov d'un coup de hache en pleine figure. Paramon Karashov ne broncha pas. Roman quitta la cabane et revint vers le portillon. Il l'ouvrit. Tatiana attendait près du portillon et agitait la clochette. Roman la prit par la main et ils se dirigèrent vers la maison suivante. Roman et Tatiana passèrent l'allée de tilleuls, passèrent la colline et s'arrêtèrent. Sous un bosquet de saules, Ivan Kuznetsov et Tatiana Avdieva ronflaient comme des sonneurs. Ils exhalaient des relents de vodka. Roman s'approcha du bosquet et frappa Ivan Kuznetsov d'un coup de clochette. Pardon, d'un coup de hache sur la tête. Ivan Kuznetsov hurla. Tatiana agita la clochette. Roman frappa Ivan Kuznetsov d'un coup de hache sur la tête. Ivan Kuznetsov cessa de hurler et ne broncha plus. Roman frappa Tatiana Avdieva d'un coup de hache sur la tête. Il y en a 100 pages comme ça. Tatiana Avdieva ne broncha pas. Roman essuya sa hache au pantalon d'Ivan Kuznetsov. Tatiana cessa d'agiter la clochette. Etc, etc. Alors, déjà, ce qui est intéressant là, c'est la hache. La hache, c'est Dostoïevski. C'est Crime et Châtiment, où Raskolnikov tue la vieille usurière d'un coup de hache. C'est très sanglant. Donc, avec cette hache, comme Dostoïevski l'avait fait d'une certaine façon en son temps, il démolit le roman, le joli roman russe, d'une part. D'autre part, Tatiana, qui est la fiancée du héros, Roman, et qui va massacrer à la fin, avant de se massacrer lui-même, toujours avec la hache. Tatiana, c'est l'idéal féminin de Pouchkine. C'est-à-dire, tout y passe, et plus rien ne reste, plus rien ne résiste. Et ce qui est intéressant, et c'est un gros problème pour la traduction, c'est que le roman se termine en russe par « Roman umir ». C'est-à-dire, Roman, le personnage, était mort. Mais Roman, en russe, c'est aussi le roman. Il n'y a pas d'article en russe. Donc le roman était mort et Raman était mort. Donc en français, il a fallu le téléphoner, c'est-à-dire écrire sans article au moins une page et demie avant pour en arriver à roman mort, ce qui pouvait s'interpréter dans les deux sens. En tout cas, c'est un livre, je ne suis pas trop longue.
Non, je vous en prie, vous pouvez conclure, puis vous vouliez peut-être juste dire un tout petit mot du livre.
Voilà, je voudrais donner un petit mot de celui qui vient de sortir, qui est sorti en février de Sorokine, Telluria. Telluria qui est, alors là encore, tout a explosé, c'est-à-dire que ça se situe aux environs de 2050. Il y a eu une guerre de religion épouvantable, les Wahhabites ont envahi tout le continent européen. Du côté de l'actuelle Russie, il y a eu des velléités d'indépendance. Moyennant quoi, tout le continent européen est complètement tout à fait à l'abandon, tout à fait dégradé. C'est absolument épouvantable. Il y a pratiquement pas d'espoir, et le seul espoir des gens, c'est le tellure, qui est une drogue, la plus forte de toutes les drogues, et qui apporte le bonheur. Mais ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que ce roman se compose de 50 chapitres, tous avec des personnages différents, dans des lieux différents, et avec une écriture différente. Voilà.
Merci beaucoup, Anne, pour la présentation de Vladimir Sorokine, de roman, et donc du suivant, Telluria, que, encore une fois, vous pouvez trouver à la librairie. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. On va enchaîner en revenant à la littérature française. Je vais demander à Olivia Rosenthal de me rejoindre et à Léana Richard, qui est lycéenne et qui va poser une ou deux questions à Olivia Rosenthal sur son travail. Où vous voulez, cher ami, vous allez lire. Léana, je vous en prie, installez-vous. On va parler effectivement de Que font les reines après Noël, un petit temps de lecture d'Olivia et puis un court échange ensuite avec Léana qui a lu le livre. C'est un roman qui est apparu en 2010, qui a eu le prix Inter en 2011 par conséquent. Un roman qui se situe finalement sur deux trames ou sur deux plans. D'une part, la parole, les expériences données de personnes qui sont en lien par leur métier avec des animaux, donc bouchers, éleveurs, dresseurs, d'autres personnages comme ça, dont vous restituez la voix et finalement la relation avec les animaux. Et en parallèle de cela, finalement, l'évolution d'une femme, d'une jeune femme d'abord, puis d'une femme ensuite. Donc un livre qui se situe toujours entre ces deux discours, ou entre ces deux narrations, ces deux fils narratifs. Je vais vous laisser peut-être en lire un extrait, chère Olivia. Et puis ensuite, peut-être un petit moment juste avec Léana, qui est une lycéenne qui a lu votre livre.
Vous ne savez pas si vous... On n'entend rien, là. Vous m'entendez, là ? Vous ne savez pas si vous aimez les animaux, mais vous en voulez absolument un. Vous voulez une bête. C'est l'une des premières manifestations de votre désir. Un désir d'autant plus puissant qu'il reste inassouvi. Je ne connaissais rien aux fauves. Je grattais des coques, je mettais en place des blocs de roche au fond de l'eau, j'étais scaphandrier. Je passais à peu près 6 ou 7 heures dans la flotte, j'en avais plus que marre. Et un jour, un gars que je connaissais m'a proposé de travailler avec des félins. J'ai passé des tests la semaine suivante, j'ai été pris. J'ai commencé comme soigneur dans un zoo sous la direction d'un dresseur qui me montrait comment procéder. Et au bout de 6 mois, il faut croire que j'étais douée, le chef m'a dit « Cet après-midi, tu enlèves ta blouse et tu prends le fouet. Tu mets ta main sur mon épaule, tu me suis comme mon ombre, tu es mon ange gardien, mais tu ne mouftes absolument pas. On va entrer tous les deux dans la cage. » Vous aimez les animaux et vous aimez aussi votre mère. Pourtant, votre mère, elle, n'aime pas les animaux. Vous lui demandez pourquoi. Pourquoi n'aime-t-elle pas les animaux? Tout le monde les aime. Pourquoi n'est-elle pas comme tout le monde? Vous aimeriez-vous que votre mère soit comme tout le monde? Qu'elle soigne de petits oiseaux juste tombés du nid? Qu'elle leur apprenne à voler? Qu'elle récupère les chiens abandonnés dans les bois? Qu'elle nourrisse les chats errants? Qu'elle ramasse les hérissons et blaireaux sur les routes? Qu'elle donne le biberon au faon dont les parents auraient été tués à la chasse? Mais votre mère ne l'entend pas de cette oreille. Elle a suffisamment à faire avec ses propres enfants sans prendre en charge aussi toutes les souffrances du monde. Si elle était comme vous dites, elle ne serait pas votre mère, celle que vous aimez par-dessus tout, en dépit même de son indifférence à l'égard des bêtes. Elle ne semble pas ébranlée par votre demande. Son assurance est telle que vous croyez qu'elle a raison. Vous aimez les animaux, mais vous préférez votre mère. Il n'y a pas de mystère. Pour avoir de bonnes bêtes, il faut les élever toutes petites. Ça dépend un peu du bénéfice qu'on veut en tirer, mais pour les faire travailler, il faut les retirer très vite de la mer et les biberonner soi-même. Enfant, vous ne vous demandez pas quel métier vous ferez, quelle vie vous mènerez, quel lieu vous habiterez, quels amis vous aurez, à quel âge vous mourrez, quels amoureux vous y conduirez. Votre mère vous tient lieu de vie, de métier, de lieu, d'amis, d'amoureux et de tout le reste. Dans le code justinien, on apprend que les choses qui ne sont la propriété de personne et qui sont de droit humain peuvent s'acquérir par occupation. Telles sont les bêtes farouches, les poissons et tous les autres animaux qui vivent dans l'air, sur la terre ou dans la mer. Car la raison naturelle veut que ce qui n'appartient à personne appartienne à celui qui s'en empare. Dans les premières années de votre vie, vous pensez que vous êtes la propriété de votre mère. Parfois, vous le regrettez. Au début, comme je ne pouvais pas avoir des loups parce qu'il faut passer le certificat, j'ai commencé avec un chien de berger. J'étais chasseur alpin. Je faisais du sauvetage en montagne. Et après, je me suis procuré des chiens loups tchèques, des hybrides très résistants et féroces, qui à l'origine ont été sélectionnés pour garder les prisonniers dans les goulags et qui sont dressés pour attaquer ceux qui chercheraient à sortir du territoire. Vous ne cherchez pas à sortir du territoire. Depuis que vous avez appris à marcher, vous vous pliez presque sans broncher aux souhaits de vos parents. Vous êtes d'une rare docilité, d'une rare gentillesse, d'une rare tendresse, mais vous insistez maladivement pour obtenir la présence à vos côtés d'un animal. Vos parents vous opposent une fin de non-recevoir. Vous décidez, à votre manière, de leur tenir tête. Celles-ci, ce sont deux louves blanches. Elles arrivent directement d'Allemagne. Elles ont été transitées, là, par la Belgique. C'est l'ancienne plaque tournante des achats et ventes d'animaux sauvages. Je ne les ai pas achetées, c'est interdit. Je les ai échangées contre deux autres bêtes. Pour les apprivoiser, j'entre tous les jours dans la cage. Je m'assois au même endroit, je porte les mêmes vêtements, je fais les mêmes gestes, j'attends qu'elles s'approchent, et quand elles sont tout près, je leur tends la main. Toujours le poing fermé, pour ne pas qu'elles s'attaquent aux doigts, on ne sait jamais. Elles sont quand même dangereuses. Et je dis exactement les mêmes mots pour qu'elles s'habituent à ma voix. Vous ne hurlez plus, vous ne mettez plus les doigts dans la prise, vous ne tournez plus les boutons de la cuisinière, vous ne renversez plus les bouilloires ou les vases. Vous êtes habitué au regard de votre mère, à la voix de votre mère, au sourire de votre mère, aux ordres de votre mère. Mais la parole vous sert à demander, à réclamer, à exiger. Vous voulez une bête. Vous le dites avec vos mots. Vous le répétez. Au besoin, vous le criez. Les animaux vous manquent. Ils sont loin. Ils sont de l'autre côté. Ils sont derrière. Ils sont au-delà, après, vers, du côté de. Où ? Où sont-ils ? Où sont les animaux ?
Merci Olivia. On entend là effectivement cette alternance entre le récit polyphonique de ceux qui travaillent avec les bêtes et puis cette sorte de quête d'émancipation finalement, comme ça adressée à la deuxième personne. Je vous laisse la parole peut-être pour un tout petit temps d'échange avec Olivia.
Bonjour. Il marche ? D'accord. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps.
Une ou deux questions peut-être. Allez-y.
Alors, j'aurais aimé savoir d'où est venue cette idée donc, de coupler ce sujet qui est si universel de la construction de soi avec cette relation qu'a l'humain avec l'animal.
Alors, en fait, je suis partie d'un désir que j'avais qui était vraiment d'écrire un livre autour des animaux. Et je peux dire qu'au départ, ce que je voulais faire, c'était d'essayer de me mettre à la place des animaux pour prendre la parole à leur place, et je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu difficile. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à travailler en, en, en faisant des entretiens avec des gens qui travaillaient avec les animaux. Je me suis dit que c'était une voie d'accès possible à cette question animale. Et finalement, en travaillant là-dessus, c'est-à-dire en interviewant des gens, donc là, vous avez entendu quelque chose qui est la transcription d'un entretien que j'ai fait avec un dresseur de loups, en fait. Et donc en m'entretenant avec des gens qui travaillent avec des animaux, donc soigneurs, dresseurs, comme tu l'as dit, bouchers, etc., je me suis rendu compte que finalement, d'une certaine manière, plus les gens étaient contraints à torturer les bêtes, plus ils me disaient qu'ils les aimaient. Et alors je me suis dit, bon, bah là, il y a quelque chose vraiment. Il y a quelque chose qui se passe là, qu'il faut aller travailler. Et pour répondre à votre question, je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas faire un livre avec ça, en fait. C'était une question un peu qui aurait exigé un essai. Et donc, finalement, je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen d'insérer ces entretiens que j'avais faits avec plein de gens, de les insérer à un récit, à une fiction. Et c'est comme ça que j'ai décidé de raconter une histoire, donc l'histoire de cette petite fille qui devient, qui accède à une sorte d'émancipation. Et comme je dis souvent, j'avais pas énormément d'imagination, donc en fait j'ai décidé de me prendre moi-même en quelque sorte comme cobaye, avec cette idée qui est la même que celle que j'avais découverte chez ces gens que j'interviewais, c'est-à-dire que en me torturant moi-même, peut-être que j'allais m'aimer un peu plus aussi. Enfin, voilà, je m'étais dit que ça serait peut-être un chemin à aller explorer. Et du coup, voilà, ces deux choses ensemble m'ont conduite à écrire ce livre. Et je me suis dit que c'était intéressant de garder ce côté un peu rugueux qu'on entend un petit peu là, c'est-à-dire le fait que comme on passe constamment d'une séquence à une autre. Au début, je pense que c'est un petit peu inconfortable pour le lecteur, c'est-à-dire qu'il met un certain temps à accepter, soit parce qu'il préfère l'histoire de la petite fille, soit parce qu'il préfère qu'on lui parle des animaux, et du coup, il est toujours entre les deux, et je trouvais que quelque chose pouvait se jouer là dans cette chose un peu rugueuse. Et le principe, si ça marche, c'est qu'au bout d'un moment, si le lecteur accepte ce jeu-là, il finit par lire quelque chose de continu, quelque chose qui lui paraissait discontinu au départ, lui paraît continu. Alors je ne sais pas si c'est universel, parce que moi je ne crois pas tellement à l'universel, je crois que ça n'existe pas trop, les choses universelles, même dans l'art, mais en tout cas ça pose des questions à des endroits différents en même temps, c'est-à-dire à la fois ça pose des questions sur l'éducation, mais ça pose aussi des questions sur l'élevage, et toutes ces choses-là finissent par, je pense, résonner les unes avec les autres. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de construire le livre, quoi.
Peut-être encore une question rapide.
D'accord. Donc, je me suis demandé comment finir cet entretien. Et donc, pour résumer ce livre, j'ai tout de suite pensé à un seul mot, ce serait le mot frontière. Donc frontière entre les différents caps de la vie de cette jeune fille, frontière entre l'animal et l'homme, et frontière aussi dans cet animal entre le domestique et le sauvage, donc quelle est la limite, et puis enfin entre l'éthique et l'immoralité.
Alors là, vous avez deux minutes, cher Olivia.
C'est une question. Oui, c'est cette histoire de frontières, c'est vraiment un point important du livre. Et aussi, comme je disais, ça rejoint l'histoire de la forme, c'est-à-dire on est toujours entre deux séquences, et donc on est toujours à la frontière aussi d'une histoire de fiction et d'une histoire plus documentaire. Et peut-être dire un petit mot sur cette histoire qui m'intéressait beaucoup, qui était le lien entre notre part animale et notre part éduquée, enfin, ou le sauvage et le domestique, comme vous disiez. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pensé à l'émancipation de ce personnage. Est-ce que l'émancipation, ça consiste à être éduqué, ou est-ce que l'émancipation, ça consiste à redevenir sauvage? Bon, après, j'ai pas de réponse à cette question, hein, mais et en fait, j'aimais bien me poser constamment cette question. D'où le fait que le titre du livre, ça soit aussi une question. Que font les reines après Noël? Sachant que les reines, on imagine que les reines sont des animaux sauvages. Mais on découvre, en faisant un peu des travaux sur les rennes aujourd'hui, que en fait, ben, c'est quasiment plus des animaux sauvages, puisqu'en fait, les rennes, bon, le problème, c'est que le petit suspense du livre est en train de disparaître, mais bon, c'est qu'en fait, les rennes qui ont peut-être un jour été des animaux sauvages sont désormais quasiment, presque exclusivement, des animaux d'élevage. Et donc, cette espèce de transformation-là, c'est quelque chose qui quand même traverse aussi le livre, c'est-à-dire comment ce qui est sauvage devient quelque chose de... Comment on élève le sauvage? Et finalement, est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est toutes ces questions-là que j'avais envie de poser et sans forcément apporter de réponse, quoi.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Olivia, merci Léana, merci beaucoup pour ce petit temps de discussion autour de Que font les rennes après Noël d'Olivia Rosenthal. Merci à vous, merci beaucoup. On va tout de suite suivre avec un autre écrivain français qui s'appelle Antoine Volodine. Je vais demander à Pierre Jourde, que je vois ici présent, de me rejoindre, et également à Cécile Targeau, qui est étudiante. Vous vous asseyez à côté de moi ou debout, comme vous voulez. Pierre Jourde, bienvenue, merci d'être là, critique, enseignant, écrivain. On peut évidemment pas citer l'ensemble de ta bibliographie, mais peut-être parler d'un double livre, si j'ose dire, Pays perdu et La première pierre, que j'aimerais conseiller aux lecteurs qui sont présents. Plus récemment, Winter is Coming, publié l'an dernier, je crois en 2016 ou 2017 peut-être. Au mois de mars, donc 2017, voilà. Et donc Cécile qui va avec toi, cher Pierre, parler d'Antoine Volodine et en particulier d'un livre qui s'intitule Les anges radieux.
Merci.
Qui s'intitule Terminus radieux.
Terminus radieux.
Le marathon a été long, sur William Volman, pardonnez-moi.
Je compatis. Je profite de l'occasion, puisqu'on vient d'entendre l'écrivain précédent... pour dire qu'il y a beaucoup d'écrivains importants et intéressants qui ont été invités aujourd'hui, mais celui-là, lisez-le de confiance, parce que c'est un écrivain important d'aujourd'hui, et ce qu'il vous a lu, je crois, en témoignait. Alors parlons d'Antoine Volodine. Il a eu, avec Terminus radieux, le prix Médicis, donc en 2014, si je ne me trompe pas, et pour moi, ça a été comme une divine surprise. Quelque chose d'un peu inattendu. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, les prix littéraires peuvent récompenser des vrais écrivains. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et non seulement des vrais écrivains, mais des écrivains qui sont un peu des cas à part. Je crois qu'on peut dire que Volodine est vraiment un cas à part dans le champ littéraire d'aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un des rares écrivains, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, un des rares écrivains qui vient de ce qu'on appelle la littérature de genre, en l'occurrence la science-fiction, même s'il récuserait ce terme pour ses premiers romans, puisqu'il était publié dans la collection Présence du futur chez De Noël pour ses premiers textes, et qu'il est passé ensuite, sans complètement changer d'ailleurs son univers, dans l'édition classique, chez Gallimard, chez Au Seuil, etc. C'est un premier point. C'est aussi un des rares écrivains qui crée un univers complètement cohérent dans tous les livres qu'il a publiés. C'est-à-dire que tous appartiennent à peu près au même monde. Chacun de ses romans est en quelque sorte un point de vue, un aspect sur ce même univers. Et enfin, parce que là encore, Volodine est un des rares écrivains d'aujourd'hui qui publie sous toutes sortes d'hétéronymes. Alors, Volodine, c'est un pseudonyme pour l'essentiel de sa production, mais il publie d'autres romans, de la littérature pour enfants, des poèmes, sous différents pseudonymes. Et chacun de ces hétéronymes a, à sa manière à lui, bien particulière, de venir enrichir l'univers volodinien. De sorte qu'on tient là, si vous voulez, une première originalité profonde de Volodine. C'est que la figure de l'écrivain, elle est présente dans ses romans, la figure de l'écrivain est elle-même une fiction, est partie prenante de sa fiction. Elle est intégrée dans sa fiction et dans sa représentation. Alors, beaucoup d'entre vous, j'imagine, savent de quoi est fait le monde volodinien, celui qu'il définit comme post-exotique, Alors, on a donné toutes sortes de définitions. Chacun donne un peu sa définition du post-exotisme, genre dans lequel Volodine situe sa fiction. Moi, je l'interprète comme l'exotisme de l'après. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de recettes d'exotisme dans les livres de Volodine qui tiennent, par exemple, à la toponymie, à la manière qu'il a d'inventer des noms de lieux, à l'onomastique, c'est-à-dire à son invention de noms de personnages, ou encore à l'emploi de termes techniques qu'il crée. Par exemple, dans Terminus radieux, il y a des passages entiers qui sont consacrés à la description des herbes, des différentes sortes, des différentes espèces d'herbes dont il invente l'appellation pseudo-scientifique. Cet univers de Volodine, donc, se situe dans un futur indéterminé, apocalyptique, après la catastrophe. Alors, c'est un genre en soi, le monde d'après la catastrophe. Qu'une tentative de révolution communiste mondiale a été éradiquée. C'est un point commun à presque tous ces livres. Il y a eu une catastrophe nucléaire. Les survivants errent dans un monde déserté entre l'Europe et l'Orient. La persistance des idéaux révolutionnaires, des idéaux communistes. Alors très curieusement, oui, il y a encore des communistes dans les romans de Volodine. C'est une espèce un peu en voie de disparition, mais pas chez Volodine. Coïncide avec le retour, presque à l'inverse, serait-on tenté de dire, de pratiques chamanistes et bouddhistes. Donc c'est un univers qui est très informé, comme nous l'indique le pseudonyme, qui est très informé par la Russie, par l'Extrême-Orient, par la Mongolie. Beaucoup de ces toponymes sont d'origine mongole, beaucoup de ces personnages sont d'origine mongole, tatar, kazakh, etc. Bref, par quelque chose entre la Russie, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient. C'est un univers sinistre, il faut bien le dire. C'est un univers en proie à la mort, à la déréliction, à la maladie, et en même temps, au fond, un peu sur le modèle de l'humour tel qu'il pouvait s'exercer dans l'ex-Union soviétique, c'est un univers qu'on ressent toujours comme légèrement distancié, avec une espèce, avec un certain humour. Un exemple de cet humour, par exemple, c'est la présence des mémés. Il y a beaucoup de mémés chez Volodine. Il y en a une dans Terminus radieux qui n'est pas piquée des vers, c'est la mémé Ougdoul, si je prononce bien, hein, Cécile. Et ces mémés sont toujours des anti-mémés. C'est-à-dire que ce sont des mémés absolument puissantes, fortes, terrifiantes, pleines de pouvoir, tyranniques. C'est-à-dire l'inverse, exactement l'inverse de la bonne grand-mère. Des mémés de pouvoir et qui ont quand même, bien que ce soit des anti-mémés, qui tiennent quelque chose, mais sous une forme modernisée, de la vieille sorcière des contes. La vieille sorcière qui va exercer ses pouvoirs et qui va intervenir dans le parcours du héros. Ce qui me frappe aussi à la lecture de Volodine, c'est que c'est un monde de la lenteur. Bon, lenteur d'abord de l'action, de la narration, qui ne se déplace que très lentement. L'événement est tout entier contenu dans une sorte, effectivement, de lent déplacement qui est comme le déroulement d'une longue métamorphose. Métamorphose du monde, métamorphose des êtres. Ce sont des romans, en effet, de la transformation intérieure des êtres, des romans du passage. Il y a beaucoup de romans qui sont des romans de ce qu'on appelait dans la symbolique l'angustia, vous savez, le passage étroit, qui est à la fois donc l'étroitesse de ce couloir dans lequel on doit progresser et qui signifie aussi l'angoisse, et qui est comme le boyau nécessaire à la transformation, à la métamorphose intérieure. Et tous ces romans sont une quête de la transformation, en effet, du passage entre différents états, entre la vie et la mort, des passages et des lieux de communication entre les consciences. Les consciences peuvent se connaître, peuvent s'interpénétrer selon des rituels plus ou moins magiques. Au fond, le chamanisme, le bouddhisme et même le communisme incarnent différents modes de cette quête permanente chez Volodine du changement d'être. Comment pourrions-nous nous métamorphoser? Comment pourrions-nous devenir en quelque sorte poreux les uns aux autres? Comment pourrions-nous entrer les uns dans les autres? Et je crois que c'est ce qui est très beau chez Volodine, ce désir en profondeur de la métamorphose et de l'interpénétration. Et c'est cette quête d'une communication secrète entre les différentes dimensions de l'être qui fait pour moi, avant tout, et aussi ce que j'ai dit tout à l'heure de la poésie des noms, des romans de Volodine, des œuvres poétiques. Et je passe la parole à Cécile qui va vous parler plus spécifiquement de Terminus Radio.
Je vais passer là.
Tu as raison. Allez.
Bonsoir. Alors moi, je vais vous parler plus précisément du roman Terminus Radio publié donc en 2014. Je vais d'abord commencer par m'intéresser au titre. Qu'est-ce que peut bien être un Terminus Radio ? Terminus Radio est rapidement compris comme le nom d'un camp de travail, d'un kolkhoz sibérien, qu'une troupe de soldats rêve d'atteindre en train. Ces soldats sont les dernières formes humaines qui peuplent un univers post-nucléaire, comme l'appelle Antoine Volodine. Si le camp appelé Terminus Radieux laisse entrevoir l'espoir d'une communauté laborieuse ou l'espoir d'un futur heureux, donc avec l'héritage d'une idéologie communiste, etc., il n'évoquera cependant aucun espace solaire ou chaleureux, car, en tout état de cause, le monde d'Antoine Volodine est privé de soleil. Ce qui radie, ou plutôt irradie, ne peut être qu'une force nucléaire, destructrice et dangereuse. Donc, en effet, le train des soldats peine à trouver son dit terminus, et finalement, le destin des personnages, l'histoire et le récit tournent sans cesse en rond. Et donc, on remarque assez aisément à la lecture du roman que les personnages ont cela de très beckettien, qu'ils s'obstinent à avancer dans un espace et dans un monde qui leur est hostile et qui est stérile. Le roman ne revient jamais vraiment sur les désastres économiques, politiques, écologiques qui ont abîmé le monde. Donc c'est bien un après, comme vous disiez. Mais le roman va plutôt s'intéresser à la façon dont les corps se décomposent et à la façon dont les liens sociaux s'érodent. Le roman s'ouvre sur un trio qui est composé par Vassilissa Marashvili, Krenauer et Ilyushenko. À peine le roman commencé, ce trio se décompose, éclate. Et donc, on a rapidement l'impression que chaque personnage du roman habite une strate temporelle un peu indéterminée, où la mort est omniprésente sans pour autant être une limite. De la sorte, les personnages subissent indéfiniment la fragilité de leur corps, sans pour autant pouvoir en sortir, et ça les mène à une sorte d'état second, d'état un peu démentiel. Si le désir amoureux ou sexuel revient régulièrement à l'esprit des personnages, il tourne sans cesse à l'obsession, parce que refoulé, ou lorsqu'il va s'exprimer de manière concrète dans le roman, il va toujours avoir des formes monstrueuses, telles que l'inceste ou le viol. Ces violences à répétition semblent signaler une totale déliaison entre les êtres, qui donc contraste justement avec ce désir de porosité, je pense, qui passe par l'écriture. Et donc, on va avoir peut-être l'impression que les personnages du monde volodinien forment une sorte de communauté bâtarde, vouée à rester en éveil quelque part entre la vie et la mort. Chez Volodine, on peut dire que la vie est un songe et que le songe devient rapidement cauchemar. Nous, lecteurs, constatons l'essoufflement des idéologies, mais aussi l'essoufflement des corps et leur dégénérescence. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre lecture, on comprend que ce qui ronge finalement tous les personnages est l'un d'entre eux, qui est un mage et qui s'appelle Soloviev. Soloviev est à la fois mage, poète, mais aussi un patriarche sanguinaire. Il est aussi une sorte de double du poète, enfin du narrateur, puisqu'il est un technicien du temps. Ironiquement, il est insensible aux radiations nucléaires Et donc, il orchestre le microcosme qu'est le camp de Terminus Radieux depuis des siècles. Et donc, il y a quelque chose de très fermé et de très oppressant, finalement. Donc, sous son regard, on a ces trois filles qui sont des sortes un peu de déesses, de guerrières très impressionnantes, très belles, et les trois personnages dont je vous ai parlé. Et finalement, ces six personnages et les autres semblent de simples marionnettes sous le regard de ce mage, et finalement, elles deviennent prisonnières de ce monde, et il est impossible d'en sortir. L'espace fictionnel semble alors devenir bel et bien un espace carcéral, une sorte d'immense labyrinthe à ciel ouvert. Face à cette fatalité, les résistants se dressent. Par exemple, les trois filles appellent Cronauer ou Parricide. Cependant, ce désir, cette ambition tragique se heurte à l'épuisement généralisé des personnages. Et donc, tuer le père, tuer le poète est finalement voué à l'échec, tellement qu'il ne reste plus qu'une seule solution au lecteur, ça va être de terminer sa lecture, quitter ce monde romanesque franchement concentrationnaire. Pourtant, malgré cela, le camp Terminus Radieux possède cette force d'attraction qui fait que le lecteur, comme les personnages, sont en proie à une rêverie qui s'apparente à celle du lieu clos et du lieu régénérateur. Donc je vais vous lire un petit extrait pour illustrer cela. Toi, avec les autres, les prisonniers et les soldats du convoi, tu as quelque chose qui t'habite. Ça va être de plus en plus précis pour toi avec le temps. Vous avez le rêve de vous fixer dans un endroit où vous serez enfin tranquille. Que vous soyez déjà mort, ou en passe de mourir ou de vous éteindre, ou encore soldat ou déjà prisonnier, ou déjà transformé pour toujours en mort-vivant, ou déguisé en vivant, ou en marionnette morte sans avoir conscience de qui vous êtes. C'est des distinctions qui n'ont aucune importance pour vous, et encore moins pour les autres qui ignorent tout de vous et qui s'en fichent. Vous rêvez de vous installer enfin dans un endroit. On ne vous imposera pas d'être différent de ce que vous êtes. Vous avez le rêve d'entrer enfin dans un camp et de plus jamais en sortir. Enfin, la récompense de vos efforts, de votre persistance. Enfin, l'incarcération dans un camp où vous serez protégé des horreurs de l'extérieur. Ce rêve, on l'a tous eu à un moment ou à un autre. Merci.
Merci beaucoup, merci à Cécile Tarjot et merci à Pierre Jourde pour cette évocation donc de Terminus Radieux d'Antoine Volodine, publié en 2014. Juste une petite info avant de donner la main à Thierry Guichard, vous informer que Antoine Volodine donnera ici même une lecture dans la petite salle le 20 novembre prochain, donc l'occasion de redécouvrir Antoine et son travail littéraire. Merci.
Bien, on va continuer cette évocation de quelques romans des années 2010 avec vous, Éric Nolot. Vous êtes un ancien caviste, ancienne marionnette des Guignols, ça n'a pas réussi aux Guignols d'ailleurs. Mais vous êtes aussi un homme de télévision, mais avant tout critique littéraire, éditeur, écrivain, nouvelliste. Si vous arrivez à rendre votre nouvelle avant lundi...
C'est pour ça que je vous quitterai rapidement. Après cette intervention, j'ai ma première nouvelle à terminer.
Deuxième nouvelle,
mais je ne me vante pas de la première.
Bon, on verra si la deuxième est meilleure. Ça devrait paraître chez qui ou comment ça s'appellera?
On m'a proposé de participer à un ouvrage collectif où chacun des participants imagine qu'il passe un moment avec un de ses artistes favoris, vivant ou mort. Et moi, j'ai choisi le cinéaste japonais Ozu.
Ah, très bien. Eh bien, écoutez, on lira ça quand ça sortira et on lira surtout pour les autres auteurs du recueil collectif. Mais là, vous êtes venu ici pour nous parler d'un livre qui a obtenu le prix Goncourt en 2015, puisqu'il s'agit de Boussole de Mathias Sénard. Donc, je vous laisse parler de ce livre-là.
Absolument. Alors, en même temps que l'anniversaire du Centre Pompidou, il s'agit donc pour nous aujourd'hui de célébrer 40 grands livres, selon les organisateurs de la manifestation, plutôt 35 selon la police critique, peut-être moins. Mais qu'est-ce au juste qu'un grand livre? Comment reconnaît-on un grand livre? À quel signe intérieur de grandeur pouvons-nous faire crédit pour l'identifier à coup sûr? Qui d'entre nous n'a dû un jour ou l'autre affronter ces questions posées par un lecteur plus ou moins malicieux? Mais c'est quoi pour vous un grand livre? et qui d'entre nous ne s'est trouvé fort dépourvu au moment d'y répondre, d'autant que les questions en question surviennent la plupart du temps à des moments inattendus, voire inopportuns. Pour ce qui me concerne, les deux dernières fois que je fus soumis à pareil interrogatoire eurent respectivement pour cadre une rame de métro surchargée et un sauna. La première fois, je me trouvais soudain trop habillé pour me lancer dans la théorie littéraire. La seconde fois, je me trouvais soudain pas assez habillé pour me lancer dans la théorie littéraire. Et dans les deux cas, je n'en transpirais que plus abondamment. Alors dans le cas de Boussole, sixième roman de Mathias Hénard, on pourrait bien sûr commencer par rappeler, comme vous l'avez fait Thierry Guichard, qu'il obtint en 2015 le prix Goncourt, car un peu d'humour ne fait jamais de mal. En cas de doute, se reporter à la liste complète des lauréats pour vérifier que cet argument n'est ni suffisant ni même nécessaire. Explorons alors une autre piste, plus personnelle celle-là. J'aime pour ma part me sentir dépassé par un livre, un peu écrasé par l'admiration que j'éprouve pour lui, confit dans la certitude que je ne saurais en aucune façon m'élever à son niveau d'excellence littéraire. Et tel est deux fois le cas avec Boussole, puisque j'envie non seulement le gai savoir de l'auteur, qui paraît avoir tout lu et tout entendu, sa manière d'instruire le lecteur sans jamais l'accabler de son érudition, mais aussi le personnage principal, capable de mettre à profit une nuit blanche, très précisément de 23h10 à 5h33 du matin, pour tirer des fils emmêlés de son existence le plus passionnant des récits, quand je passe mes propres nuits d'insomnie à fixer le plafond sans trouver même la force de me traîner jusqu'au salon pour attendre le sommeil devant un documentaire animalier ou un match du championnat de football écossais. Très sous-estimé, le championnat de football écossais. Le musicologue Franz Ritter ne parvient pas à dormir dans son appartement viennois. Il laisse dans son esprit s'enrouler et se dérouler les souvenirs comme autrefois les volutes de ses pipes d'opium dans une chambre d'Istanbul ou de Téhéran. L'opium dont il est beaucoup question dans le roman et donc aussi pas mal dans mon intervention. Souvenirs de voyage dans l'Orient 100 fois arpenté, jamais épuisé, dans l'Orient compliqué mais tout de même moins compliqué que ses amours avec Sarah, elle-même fascinée par une autre voyageuse du Grand Est, Anne-Marie Schwarzenbach, et plus généralement par ce qu'elle nomme les aventuriers de la mélancolie. Mélancolie définie comme, je cite, « le résultat d'un frottement, d'une perte de soi dans la création au contact de l'altérité ». Souvenir de tant de morceaux de musique aussi pour le narrateur qu'il n'entendra plus pour beaucoup que dans sa tête, tout comme sur la fin Beethoven, au sujet duquel Mathias Hénard rappelle la terrible anecdote de son ultime concert. Déjà complètement sourd, le génial compositeur livra sur un piano désaccordé et devant un parterre choisi la plus consternante des prestations. Lui entendait une céleste mélodie, les autres subissaient un désastre sonore. J'ai entendu dire que pareil, mes aventures arrivaient parfois à des orateurs. À ce propos, se pourrait-il que reconnaître un grand livre soit avant tout question d'oreille? La première phrase de Boussole s'étire et s'inue d'une seule traite sur l'intégralité de la première page du roman et s'ouvre ainsi. Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage, sans rien voir au dehors, seuls. Sans nous comprendre jamais, nous fumons, visage agonisant dans un miroir. Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement, un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon, une perle qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, ni des atomes qui la composent encore, mais qui bientôt serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourd sur Vienne ce soir. Qui sait dans quelle nuque ruissellera cette eau, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière. Mes amis, Sylviane Sambor et le regretté Claude Rouquet m'ont rapporté que lorsque feu Jean-Claude Pirotte goûtait un vin à sa convenance, il exprimait sa satisfaction en disant simplement « c'en est ». Non pas « c'en est du bon » ou « c'en est du fameux », non, « c'en est ». Et là, je crois que c'en est. Un grand livre se signale aussi parce qu'il semble concentrer et magnifier toutes les précédentes publications de l'écrivain. En ce sens, Ritter, le fou d'Orient dans Boussole, apparaît comme l'héritier qui aurait fait fructifier le magot de tous les voyageurs d'est en ouest ou d'ouest en est qui peuplent l'œuvre de Mathias Hénard. Michel-Ange, dans Parle-leur de bataille, de roi et d'éléphant, Lagdar dans La rue des voleurs, ou Francis dans Zone, sans oublier l'auteur lui-même, traducteur de perse et d'arabe. qu'importe le sens dans lequel on les emprunte, l'essentiel est de jeter des ponts entre ces points cardinaux que ne cesse d'éloigner depuis trop longtemps une métaphorique dérive des continents. Un grand livre se signale encore par le dialogue qu'il ouvre avec d'autres livres avant même de prendre place parmi eux dans notre bibliothèque. Boussole convoque nommément parmi tant d'autres Sadegh Hedayat, Proust, Magris, David Lodge, Gracq, Sheridan Le Fanu, Alexandre Dumas père et fils, Pessoa, Théophile Gautier, Karl May, Baudelaire, Homère, Heine, Novalis, Nietzsche, Trakl, Balzac, Goethe, Hugo, Lamartine, liste non exhaustive, sans oublier de plus ou moins évidentes allusions semées au long des pages comme pour un jeu de pistes à Rabelais, Joseph Roth, Roberto Bolaño ou Peter Esterhazy. Et certaines considérations sur l'Autriche de la part du narrateur, tout comme son obsession pour les déambulations de son voisin du dessus, le bruyant Monsieur Gruber, qui aggrave encore les tortures de l'insomnie et perturbe ses rêveries éveillées, ne sont pas sans rappeler la manière du cher Thomas Bernard. De même que cette phobie rappelle le définitif aphorisme d'un autre auteur majeur du XXe siècle, dont nous célébrerons l'année prochaine le 30e anniversaire de la disparition, j'ai nommé Pierre Desproges, lequel établit un jour, ou plus probablement une nuit, qu'un bon voisin est un voisin mort. La première phrase de Boussole continue ainsi. Et cette face, indistincte sur le verre, n'est mienne qu'un instant, une des millions de configurations possibles de l'illusion. Tiens, Monsieur Gruber promène son chien malgré la bruine. Il porte un chapeau vert et son éternel imperméable. Il se protège des éclaboussures des voitures en faisant de petits bonds ridicules sur le trottoir. Le clébard croit qu'il veut jouer. Alors il bondit vers son maître et se prend une bonne baffe au moment où il pose sa patte crasseuse sur l'impair de Monsieur Gruber, qui finit malgré tout par se rapprocher de la chaussée pour traverser. Sa silhouette est allongée par les réverbères, flaque noircie au milieu des mers d'ombre des grands arbres, déchirée par les phares sur la porcelaine gasse. C'en est, vous dis-je, c'en est. Les grands livres vous invitent aussi à considérer sous un angle nouveau des objets sur lesquels vous ne portiez plus que le regard de l'habitude. Après avoir pris connaissance de ce qu'en dit Sarah dans Boussole, je ne verrai plus jamais du même œil Danube de Claudio Magris, pourtant un de mes textes cultes, lus et relus depuis près de 30 ans. Je vous laisse découvrir pourquoi. Boussole est disponible à la librairie du Centre Pompidou et Danube aussi, j'espère. Après avoir pris connaissance de ce qu'en dit Franz Ritter dans Boussole, je ne verrai plus jamais du même œil les barbares et autres connards de l'État islamique détruire à coups de masse des statues dans un musée, scène pourtant vue et revue ces dernières années. Je vous laisse aussi découvrir pourquoi. Je crois avoir déjà mentionné que Boussole est disponible à la librairie du Centre Pompidou. Un grand livre, c'est aussi tendre à l'improviste un miroir à son lecteur. Comment ne pas reconnaître dans l'expérience de l'opium, ainsi décrite par Mathias Sénard, une autre expérience, celle de la lecture. Je le cite, et ce n'est pas la moindre des contradictions de ce stupéfiant mystique que de, tout en exacerbant la conscience et les sensations, nous tirer de nous-mêmes et nous projeter dans le grand calme de l'universel. Toujours sous la plume de Mathias Sénard, comment ne pas reconnaître dans la lecture ce vice impuni, comme disait Larbaud, l'équivalent d'une autre addiction. Je le cite encore, un long et profond désir. Un désir parfait, car il ne nécessite aucune satisfaction, aucun achèvement. Un désir éternel, une interminable érection sans but. Voilà ce que provoque l'opium. Il nous guide dans les ténèbres. Et je pense que la lecture pourrait aussi convenir à cette définition. Alors nous nous rapprochons doucement de l'heure à laquelle débute la féconde insomnie de Franz Ritter. Thierry Guichard se rapproche toujours davantage du terme de son marathon et de l'aspect d'un fumeur d'opium. Et la première phrase de Boussole se clôt ainsi. « Et Herr Gruber hésite apparemment à s'enfoncer dans la nuit de l'Alzergrund, comme moi, à laisser ma contemplation des gouttes d'eau, du thermomètre et du rythme des tramways qui descendent vers Schottentor. C'en est, tout comme il y en a dans la boisson plutôt pour les hommes que sifflent les tontons flingueurs. Il est temps de retourner lire, si possible un grand livre. Il est temps de se laisser guider dans les ténèbres en buvant une bière bien fraîche, tout en interrompant notre lecture pour observer une goutte qui descend lentement le long des flancs du boc, comme une perle qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, ni des atomes qui la composent encore, mais qui bientôt serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourd sur Vienne ce soir. Qui sait dans quelle nuque ruissellera cette eau, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière. C'est peut-être, c'est sans doute une future métamorphose de nous-mêmes que nous contemplerons. Et puisqu'il faut conclure, après lecture de boussole et rapide examen du monde tel qu'il tourne ces derniers temps, je dirais que n'en déplaise à Serge Gainsbourg, Dieu n'est pas un fumeur de Havane, mais plutôt un fumeur d'opium. Merci de votre attention.
Merci, Éric Nolot. Éric Nolot, vous venez de vous porter tort, enfin vous venez de vous contredire, puisque vous avez prouvé ainsi qu'on n'est pas obligé de choisir, on peut être brillant et faire de la télévision malgré tout. Merci, merci Éric Nolot. Alors, ce n'est pas encore l'heure des remerciements, mais je, par anticipation, je voudrais quand même remercier le lycée Camille Claudel de Pontault-Combault et leur demander par la même occasion s'ils ne pourraient pas prendre ma fille l'année prochaine, parce qu'on a eu des lycéennes qui ont été formidables pour parler des livres aujourd'hui. On va continuer avec l'une d'entre elles, Diane Lantran, que j'appelle ici, et qui va nous parler des Anges radieux de William T. Vollman, donc grand écrivain américain. Et donc vous vous mettez là si vous voulez ou au pupitre. Oui.
Merci. C'est bon là, vous m'entendez ? Alors bonjour à tous. Voilà, je me présente. Je m'appelle Diane Lantran. Je suis donc lycéenne en terminale S. Donc oui, voilà, je suis pas une littéraire dans ma filière, mais voilà, comme tout le monde, j'aime lire le soir et du coup, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Les Anges radieux de William T. Vollman et qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais voilà partager avec vous aujourd'hui. Donc ce roman, c'est un roman de science-fiction qui a été écrit en 1987. Et c'est le premier roman de l'auteur. L'auteur est un auteur américain, c'est un journaliste. Et il a écrit ce roman-là en voulant parler d'une expérience qu'il avait vécue avec son engagement en Afghanistan et en côtoyant des programmeurs. Parce que ce roman-là, c'est un roman qui a une toile de fond basée sur la science. Et aussi sur la révolution et l'identification personnelle au sein d'un monde complexe. C'est pourquoi on va avoir un roman de un roman où on va avoir un jeune héros qui va chercher à trouver sa place dans un monde qui va être divisé entre plusieurs camps. Le premier camp. Ça s'appelle les réactionnaires. Donc, ces gens-là sont des gens qui représentent le modèle capitaliste et libéraliste américain. Donc, comme vous l'aurez compris, ce livre marche par cliché. Et ce camp-là, on peut en faire tout ce qu'on veut, et surtout avec l'actualité d'aujourd'hui. Ce camp est largement composé de suprémacistes blancs, on va dire, et des gens qui croient beaucoup en le progrès et avant tout en le progrès, même avant l'humain. Voilà, donc on pourrait croire que c'est les méchants du livre, mais justement, l'avantage de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchants et que même s'il marche beaucoup avec des clichés, le lecteur avisé peut comprendre dans les nombreuses digressions de l'auteur que finalement, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Et j'en viens du coup à parler du second camp du livre qui s'appelle les révolutionnaires. Donc ces gens-là, c'est des gens qui font beaucoup penser au groupe d'affinité des années 60 aux États-Unis, encore une fois, puisque à la base, c'est un groupe qui s'est formé avec des étudiants, des gens qui contestaient le modèle réactionnaire et qui voulaient imposer un nouveau mode de pensée qui privilégierait l'humain avant la technologie, avant l'argent. Seulement, l'auteur est passé en Afghanistan avant ça. Il a participé à la révolution et il a compris que dans toute révolution, il fallait adopter les... Parfois, on était obligé d'adopter les méthodes violentes de l'opposant et que malheureusement, les révolutionnaires finissent souvent par finir exactement ce qu'ils combattaient à la base. Aussi, on comprend que l'auteur, dans ce livre, a une certaine désillusion. Et de ce fait, je vais vous parler du troisième camp. Le troisième camp, c'est les insectes. Donc la nature, avec tout ce qu'elle a de brutal et d'absolu presque. Les insectes, ça représente toutes les populations martyres, avant tout, parce que dans un monde dominé par le progrès, les insectes sont écrasés sur tous les trottoirs. Et quand c'est écrit par un auteur américain, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les Vietnamiens, les Juifs, les Noirs américains, les Indiens d'Amérique, qui ont été des populations martyrisées pendant des dizaines d'années sans que personne, à l'époque, ne s'en rende compte ou du moins ne prenne la peine de défendre leur cause. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai présenté rapidement les différents camps du livre, on va s'intéresser plus particulièrement au point de vue américain de ce livre. Étant donné que ce livre a été écrit par un auteur américain et que c'est son premier roman, je pense qu'il a essayé du moins de faire paraître beaucoup d'éléments de sa culture personnelle dans ce roman-là. Donc, moi, j'ai lu le livre traduit. Donc, je pense que, en tant que lycéenne, j'ai 17 ans, j'ai raté beaucoup d'événements et je ne pourrais pas faire une liste exhaustive de toutes les références à l'histoire des Américains, surtout à l'histoire populaire. Néanmoins, j'ai pu relever l'American Dream parce que le patron des réactionnaires, des gens capitalistes, trouve son premier million dans un ventre d'éléphant, tout simplement, et que dans tout le livre, on nous fait voir l'argent comme le seul moyen de s'en sortir, finalement. Donc, l'American Dream, la conquête de l'Ouest, parce que ce livre-là, c'est axé sur l'électricité et sa diffusion, donc aussi la diffusion du progrès. Et on voit dès le début du livre une réflexion de l'auteur sur une parallèle faite entre la diffusion du progrès et l'exploration au XIXe siècle. Et avec ces références-là, il amène aussi la loi du plus fort, puisque le héros, le jeune héros qui est à la base un révolutionnaire, a subi la loi du plus fort à l'école, la loi du plus fort qu'on retrouve beaucoup dans les pays capitalistes, et même dans tous les pays du monde, en fait, parce que la plupart des gens fonctionnent de cette façon-là, malheureusement. Cette loi du plus fort est très présente dans le livre. On sent que l'auteur a été peut-être opprimé, ou du moins qu'il a voulu faire sentir qu'il subissait une pression quand il écrivait. C'est pourquoi il a choisi de faire un dialogue au sein de la narration, de la rendre plus détraquée que possible, en créant une entité qui s'appelle dans le livre Big George, et qui essaye de prendre la place de celui qui se fait appeler le narrateur. Aussi, on a comme deux auteurs dans le livre, et ces deux auteurs-là vont se battre continuellement pour pouvoir prendre la parole et s'exprimer. Le narrateur étant un programmeur, donc sur une toile de fond scientifique, celui qui écrit les programmes et donc le livre, et Big George étant l'intelligence artificielle, la toute-puissance de la machine. Et du coup, ça renvoie le lecteur à faire la parallèle entre le joueur d'échecs contre la machine, ou plus particulièrement ici, le joueur du jeu vidéo contre la machine. Et cette métaphore-là, elle est reprise tout au long du livre, avec l'idée de résurrection des personnages. L'auteur fait vraiment ce qu'il veut de ses personnages, et surtout au début, on s'en rend compte très bien dans un passage que je vais vous lire maintenant. Juste aller au pupitre pour ça.
Ça va venir, il faut le temps de... Ouais. C'est bon.
Donc voilà. C'est bon ? C'est pas bon. Sinon je peux prendre un micro ici.
C'est bon ?
C'est bon ? Oui, voilà. Merci. Voilà, c'est un des premiers chapitres du livre. Donc j'ai choisi de vous le lire plus particulièrement celui-là, précisément pour que vous rentriez dedans comme moi je suis rentrée dedans. Le chapitre s'appelle « Connaissance synthétique, a priori ». Et il commence ainsi. « Ô vous, mes anges radieux et exaucés, voilà que je vous gisais tous sous terre. Moi, votre auteur, je suis seul, il n'y a plus personne au monde. Et comme c'est moi qui m'occupe de tout ici la moitié du temps, je vais vous soumettre une fois de plus un de mes jugements insensés. Insensé car vous êtes tous si pleins de bonne volonté que je ne pourrai jamais vous punir. Et cela, quel que soit le degré de votre vilainerie. Je presse le bouton résurrection. Et vous voilà aussi vrai que nature. Notre héros, Bug, s'extrait timidement de sa fosse, très poli et peut-être un peu gêné, alors qu'il ôte cendres et moisissures de son visage. Je sais bien que ce n'est pas de sa faute. Voilà, donc ce passage-là est assez court. En fait, je ne pouvais pas vous lire plus longtemps parce qu'après, il commence à parler un peu trop des personnages et j'avais peur de perdre les courageux qui sont encore là. Ce passage-là, avec ce passage-là, on voit clairement que l'auteur se sent comme tout-puissant dans l'écriture de son livre et qu'avec ce sentiment-là, on peut y voir un aspect tragique parce qu'on sait que finalement, à la fin, les personnages vont finir par s'entretuer, étant donné qu'au début, on les ressuscite. Et du coup, ça fait le lien avec l'aspect du cartoon dans le livre parce que ce livre-là est un livre où on trouve des dessins de l'auteur à l'intérieur dès les premières pages. Je vous en montre par exemple un totalement au hasard. Et il est le livre, son sous-titre à la base, c'est « A Cartoon ». Ça revient et ça reprend la métaphore du jeu vidéo et de la culture américaine dans le livre. Voilà, donc moi, comme je vous le disais au départ, je suis seulement amateur et de ce fait, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il m'a plu et il m'a parlé. Il m'a parlé parce qu'on peut en ressortir plein d'interprétations différentes. Et finalement, ce livre est tellement... c'est un roman fleuve avec des personnages riches et on peut en comprendre ce qu'on veut. Et on peut l'interpréter de la façon dont on le souhaite. Et je pense que ça fait vraiment la force du livre et que c'est ainsi que ça peut plaire vraiment à n'importe qui. Voilà. Je vous remercie de votre attention et voilà, bonne fin de journée.
Merci Diane Lantran, formidable, merci. Et en plus, sans prendre le temps de regarder ses notes, ce qui est quand même extraordinaire, merci à vous.